Charles Dickens, La Petite Dorrit, livre 2, Richesse. Chapitre 1er, Les compagnons de voyage. Par une soirée d'automne, les ténèbres et la nuit montaient lentement le long des pics les plus élevés des Alpes. C'était l'époque des vendanges dans les vallées du passage du Grand Saint-Bernard du côté de la Suisse et sur les bords du lac de Genève. L'atmosphère était chargée de l'odeur du raisin cueilli. Des paniers, des auges et des baquets pleins de raisins traînaient devant les portes du village obscurci, encombrant les rues étroites et montueuses. Toute la journée, on n'avait fait qu'apporter du raisin le long de chaque route et de chaque sentier. Partout, on voyait à terre du raisin renversé et écrasé sous les pieds du passant. L'enfant, suspendu sur l'épaule de la paysanne rentrant chez elle d'un pas fatigué, était calmé au moyen d'un raisin ramassé sur la route. L'idiot, assis sous l'auvent d'un chalet, réchauffant au soleil son énorme goitre, mordait à même la grappe. La laine des vaches et des chèvres sentait les feuilles et les bourgeons de vigne. Les gens attablés dans les tout petits cabarets mangeaient, buvaient, parlaient raisins. Quel dommage que cette généreuse abondance ne suffise pas pour rendre le vin du pays moins maigre, moins âpre, moins rocailleux. Car, après tout, c'est de ce raisin, pourtant, qu'il est fait. Pendant cette belle journée, le ciel était resté pur et transparent. Des clochers de métal et des toits d'église trop éloignés pour qu'on les aperçût souvent avaient brillé au loin ce jour-là. Les sommets neigeux des montagnes s'étaient dessinés si clairement à l'horizon que des yeux peu habitués à de pareils spectacles, supprimant le paysage intermédiaire et faisant tort à ces montagnes d'une hauteur incroyable, se figuraient qu'elles ne se trouvaient qu'à quelques heures de marche. Des pics qui jouissaient d'une grande réputation dans la vallée, d'où on ne pouvait les voir pendant des mois entiers, s'étaient montrés à nu, comme à deux pas, dans le ciel bleu. Et maintenant qu'il faisait déjà nuit à leur base, bien qu'ils parussent s'éloigner solennellement, comme des spectres qui vont disparaître, à mesure que la lueur rougeâtre du soleil couchant les abandonnait en les teignant d'un blanc mat, on les apercevait encore distinctement dans leur isolement bien tranché, au-dessus du brouillard et des ombres. Vu du milieu de ces solitudes, dont le passage du Grand Saint-Bernard faisait partie, la nuit semblait s'élever comme une mer qui monte. Lorsque l'obscurité gagna enfin les murs du couvent du Grand Saint-Bernard, on eût dit que ce vieil édifice était une seconde arche voguant sur des flots ténébreux. L'obscurité, montant plus vite que certains touristes voyageant à dos de mulet, avait donc déjà atteint les murs raboteux du couvent, tandis que ses voyageurs suivaient encore les sentiers de la montagne. De même que la chaleur de ce beau jour, durant lequel ils s'étaient plus d'une fois arrêtés pour boire des ruisseaux de glace et de neige fondue, avait fait place au froid pénétrant de l'air raréfié des montagnes, de même la beauté verdoyante de la plaine avait fait place à un paysage aride et désolé. Les voyageurs suivaient maintenant un sentier rocheux entouré de précipices, le long duquel les mulets grimpaient à la file, d'un bloc à l'autre, comme s'ils montaient les marches dégradées de quelque escalier gigantesque. On n'aperçoit plus un seul arbre, pas la moindre végétation, sauf quelques misérables brins de mousse brun, grelottant dans les crevasses des rochers. Ça et là des poteaux noircis, pareils à des bras de squelette, qui s'élèvent pour indiquer la direction du couvent, comme si les spectres de voyageurs ensevelis sous la neige hantaient encore le théâtre de leur mort. Des caves tapissées de glaçons, creusées pour servir de refuge contre un soudain orage, sortaient autant de murmures qui semblent vous avertir des périls de la route. Des spirales et des nuages de brouillard, sans cesse en mouvement, errent de tous côtés, chargés par le vent qui gémit. La neige, le plus redoutable péril des montagnes, tombe en rapides flocons. La file des mulets, fatiguée par leur longue et pénible ascension, poursuit lentement sa route tortueuse le long de l'abrupt sentier. À la tête marche un guide en chapeau à large bord et en veste ronde, portant sur l'épaule un ou deux bâtons ferrés, tenant la bride de la première mule et causant avec un de ses camarades. Les voyageurs eux-mêmes gardent le silence. Le froid glacial, les fatigues de la route et même une sensation toute nouvelle de difficulté dans la respiration, comme s'ils sortaient d'un bain d'eau glacée, ou qu'ils vinssent de sangloter de froid, leur ôtent l'envie de parler. Enfin, du sommet de ce rude escalier, une soudaine clarté illumine la neige et perce le brouillard. Les guides encouragent les mules qui dressent les oreilles. Les voyageurs retrouvent l'usage de la parole, et à force de glisser, de sauter, au milieu du tintement des clochettes et du bruit des voix, on arrive aux portes du couvent. D'autres mules qui venaient d'arriver auparavant, montées par des paysans chargés de provisions, avaient transformé en une mare de boue la neige amoncelée devant la porte. Selles et brides, bas et harnais à clochettes, mules et conducteurs, lanternes, torches, sacs, fourrages, barils, fromages, pots de miel ou pots de beurre, bottes de paille et paquets de toutes les formes, se pressaient pêle-mêle sur les marches du couvent dans ce marécage de neige fondue. Là même, tout en haut, au-delà des nuages, on ne voyait rien qu'à travers un nuage. Tout semblait se dissoudre pour se transformer en nuage. La laine des hommes formait des nuages, celle des mules formait des nuages plus grands encore. Un nuage entourait la lueur des torches, un nuage venait s'interposer entre vous et celui qui vous parlait, bien que sa voix vous arrivât avec une sonorité merveilleuse, comme tous les autres bruits. De temps à autre, dans la ligne nuageuse des mules, attachée à des anneaux scellés au mur, un quadrupède se mettait à mordre son voisin ou à lui envoyer une ruade, et alors le nuage entier se déplaçait, et les guides s'y élançaient, et il en sortait des cris, sans que les spectateurs pussent distinguer ce qui s'y passait. Au milieu de tout cela, la vaste écurie du couvent, occupant le rez-de-chaussée de l'édifice, où l'on pénètre par l'entrée principale et devant laquelle existait tout ce désordre, envoyait aussi son contingent aux nuages, comme si le triste édifice ne contenait pas autre chose, et se proposait de s'affaisser comme une outre dès qu'il se serait vidé pour laisser la neige maîtresse du faîte de la montagne. Tandis que tout ce bruit et tout ce remue-ménage allaient toujours augmentant parmi les voyageurs vivants, on aurait pu voir à 6 pas de là, silencieusement rassemblés dans une maison grillée, enveloppés dans le même nuage, exposés aux mêmes flocons de neige, les voyageurs trouvés morts dans la montagne. La mère, surprise par l'orage de plusieurs hivers auparavant, debout dans un coin, serrant contre son sein un enfant à la mamelle. L'homme qui avait gelé au moment où il portait sa main à sa bouche, par un geste de faim ou d'effroi, et pressant encore ses lèvres desséchées, qui ne s'étaient pas ouvertes depuis bien des années. Société horrible à voir, étrange et mystérieuse compagnie. Quelle affreuse destinée pour cette pauvre mère, si elle a pu prévoir son sort et se dire « Entourée de tels et tels compagnons que je n'ai jamais vus et que je ne verrai jamais, ma petite fille et moi, nous demeurerons désormais inséparables au sommet du Grand Saint-Bernard, survivantes à des générations entières qui viendront nous voir et qui ne sauront jamais notre nom, qui ne connaîtront de notre histoire que sa fin lugubre. » À ce moment, les voyageurs vivants ne pensaient guère aux morts. Ils songeaient bien plutôt à mettre pied à terre à la porte du couvent pour aller se réchauffer. Échappant à la confusion extérieure qui se calma peu à peu à mesure que l'on installait dans l'écurie les nombreuses mules, ils s'empressèrent de monter les marches en grelottant et de pénétrer dans l'asile hospitalier. À l'intérieur, les animaux attachés dans l'écurie exhalaient comme une odeur de ménagerie de bêtes sauvages. Il y avait de solides galeries en arcade, d'énormes piliers de maçonnerie, de larges escaliers et des murs épais percés de fenêtres qui ressemblaient à des meurtrières, à des fortifications élevées contre les terribles ouragans de la montagne, comme si c'était des assiégeants dont il fallait repousser l'assaut. Il y avait des chambres sombres, voûtées, glaciales, mais propres et prêtes à recevoir des voyageurs inattendus. Enfin, il y avait une salle de réception où ces voyageurs devaient s'asseoir et souper. La table était déjà mise et un grand feu flambait et pétillait dans l'âtre. C'est là que les nouveaux venus se rassemblèrent autour de la cheminée lorsque 2 jeunes moines leur eurent indiqué leur chambre. Il y avait 3 sociétés distinctes. La première, la plus nombreuse et la plus importante des 3, s'était avancée moins vite que les autres et avait été rejointe en route par la seconde. Elle se composait d'une dame d'un certain âge, de 2 gentlemen en cheveux gris, de 2 demoiselles et de leurs frères. Ces voyageurs de distinction étaient suivis, pour ne pas parler de 4 guides, d'un courrier, de 2 valets de pied, et de deux femmes de chambre, nouveau surcroît d'embarras, qui s'étaient casées dans quelque autre partie du couvent. La société qui les avait rejoints et fait route avec eux ne se composait que de trois personnes, une dame et deux messieurs. La troisième société qui était montée de la vallée par le côté opposé, c'est-à-dire par le côté italien du passage du Grand Saint-Bernard, et dont l'arrivée avait précédé celle des autres touristes, se composait de trois membres. Un professeur allemand en lunettes, pléthorique, affamé, silencieux, faisant un voyage d'agrément avec trois jeunes gens, ses élèves, tous trois pléthoriques, affamés, silencieuses et en lunettes. Ces trois groupes étaient assis auprès du feu et se regardaient d'un air assez froid en attendant le souper. Parmi les voyageurs, un seul, il appartenait à la moins nombreuse des trois sociétés, parut disposé à entamer la conversation. Lançant une amorce à l'adresse du chef de la tribu importante, tout en ayant l'air de ne parler qu'à ses deux compagnons, il remarqua d'un ton qui permettait aux autres de lui répondre, si bon leur semblait, que la journée avait été rude et qu'il plaignait les dames. Il craignait que l'une des demoiselles ne fût accablée de fatigue depuis au moins 2 ou 3 heures. Il avait remarqué, de sa place à l'arrière-garde, qu'elle avait l'air harassée sur sa mule. Plus tard, il avait eu l'honneur de demander 2 ou 3 fois à l'un des guides restés en arrière des nouvelles de la jeune miss. Il avait été charmé d'apprendre qu'elle avait retrouvé toute sa gaieté et que ce n'avait été qu'une fatigue passagère. Il osait donc, il avait fini par attirer l'attention du père et s'adressait maintenant plus directement à lui, ajouter qu'il espérait que mademoiselle était tout à fait remise et n'en était pas à regretter d'avoir entrepris ce voyage. « Je vous suis bien obligé, monsieur, » répondit le père. « Ma fille est complètement remise et elle a pris un vif intérêt aux beautés de la nature. » « Elle n'est pas encore habituée aux montagnes, peut-être ?» demanda le voyageur insinuant. « Non, elle n'est pas habituée aux montagnes, » répondit le père. « Mais pour vous, monsieur, ces scènes n'ont rien de nouveau, » reprit le voyageur insinuant. « Rien de bien nouveau, quoique je n'ai pas beaucoup voyagé ces dernières années, » répliqua le père avec un geste majestueux de la main droite. Le touriste insinuant, répondant à ce geste par un salut, passa à l'aînée des jeunes demoiselles, à laquelle il n'avait pas encore fait allusion, sauf lorsqu'il avait parlé du vif intérêt que lui inspiraient les voyageuses en général. Il exprima alors l'espoir qu'elle n'avait pas été incommodée par la longueur de la route. « Incommodée, c'est vrai, » répondit la demoiselle, « mais non pas fatiguée. » Le touriste insinuant lui adressa un compliment sur la justesse de cette distinction. C'était là ce qu'il avait voulu dire. Il n'est pas de dame qui ne soit incommodée lorsqu'elle a affaire à un animal aussi proverbialement incommode qu'une mule. Il a naturellement fallu laisser les voitures et le fourgon à Martigny, continua la demoiselle, un peu hautaine et réservée. L'impossibilité où l'on est de transporter jusqu'à cet endroit inaccessible une foule d'objets dont on a besoin et l'obligation de laisser derrière soi une foule de choses auxquelles on est habitué est fort désagréable. En effet, c'est un endroit bien sauvage. La dame d'un certain âge, d'une mise irréprochable, et dont les manières, envisagées au point de vue mécanique, ne laissaient rien à désirer, intervint alors dans la conversation pour y placer son mot d'une voix douce. « Mais c'est comme tant d'autres endroits incommodes qu'on est bien obligé de voir. Celui-ci est assez fameux pour qu'on puisse ne pas s'en dispenser. « Oh, je ne m'y oppose pas le moins du monde, madame générale, je vous assure, » répondit la demoiselle d'un ton d'insouciance. « Vous, madame, » reprit le touriste insinuant, « vous aviez déjà visité ces lieux. » « Oui, » répliqua madame générale. « Ce n'est pas la première fois que je les visite. Permettez-moi de vous conseiller, ma chère, à l'aînée de ces deux compagnes, de protéger votre visage contre la chaleur de ce grand feu, après l'avoir exposé toute la journée à l'air vif de la montagne et à la neige. Vous aussi, ma chère, » ajouta la dame en s'adressant à la plus jeune. Celle-ci s'empressa de suivre ce sage conseil, tandis que l'autre se contenta de répondre « Merci, madame générale. Mais je me sens parfaitement à mon aise et je préfère rester comme je suis. » Le frère, qui avait quitté son siège pour aller ouvrir un piano qui se trouvait là et avait sifflé dedans avant de le refermer, se rapprocha du feu d'un pas indolent, le lorgnon à l'œil. Il portait un costume de voyage des plus complets. On aurait cru que l'univers entier ne devait pas être assez grand pour fournir à un voyageur si admirablement équipé assez d'espace à parcourir. « Ces individus-là sont diablement longs à donner le souper, » dit-il en traînant ses paroles. « Je voudrais bien savoir ce qu'ils vont nous servir. Quelqu'un en a-t-il la moindre idée ?»«
Ce ne sera toujours pas un homme rôti, je suppose, » observa le compagnon du touriste insinuant.
« C'est assez probable. Que voulez-vous dire par là ?» demanda l'autre.
« Je veux dire que, comme vous n'êtes pas destiné à figurer dans le menu du souper qu'on va servir à la société, vous nous ferez peut-être le plaisir de ne pas vous rôtir devant le feu de la société, » répliqua son interlocuteur.
Cette réponse fit perdre contenance au jeune homme ainsi interpellé, qui venait de s'installer au beau milieu de l'âtre, dans une pose pleine d'aisance, le lorgnon à l'œil, le dos au feu, et les pans de sa redingote relevés sous ses bras, comme une volaille qu'on retrousse pour la mettre en broche. Il semblait sur le point de demander encore une explication, lorsqu'on s'aperçut, car tous les yeux s'étaient tournés vers l'agresseur, que la jeune et jolie dame assise à son côté n'avait pas entendu cette conversation, attendu qu'elle était évanouie, la tête sur l'épaule du monsieur. « Je crois, dit celui-ci d'un ton radouci, que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de la porter tout droit à sa chambre. « Voulez-vous demander une lumière ?» continua-t-il s'adressant à son ami, « et appeler quelqu'un pour me montrer le chemin. Au milieu de toutes ces galeries qui s'entrecroisent et que je ne connais pas, je ne sais pas si je retrouverai ma chambre. « Permettez-moi d'appeler ma femme de chambre, » dit la plus grande des deux demoiselles. « Permettez-moi d'approcher ce verre d'eau de ses lèvres, » dit la plus petite, qui n'avait pas encore ouvert la bouche. Chacune d'elles, exécutant aussitôt ce qu'elle proposait, les secours ne manquèrent pas à la malade. Et même lorsque les deux femmes de chambre anglaises arrivèrent, escortées par le courrier qui, sans doute, avait peur que quelqu'un ne les embrassât en route en leur adressant la parole dans une langue étrangère, on put croire un moment qu'il allait y avoir plus de monde qu'il n'en fallait. Ce que voyant, le gentleman en dit un mot à la plus délicate et à la plus jeune des deux demoiselles, puis il passa le bras de sa femme autour de son col, la souleva et l'emporta. Son ami, resté seul avec les autres visiteurs, se mit à se promener de long en large, sans se rapprocher du feu, caressant d'un air rêveur sa moustache noire, comme prêt à prendre à son compte le sarcasme récent décoché contre le monsieur bien mis. Tandis que celui-ci boudait dans un coin, le père dit d'un air hautain au compagnon du coupable « Votre ami, monsieur, est un peu vif, et sa vivacité lui a peut-être fait oublier ce qu'il doit à... Mais passons là-dessus, passons là-dessus, passons là-dessus. Votre ami est un peu vif, monsieur. » « C'est possible, monsieur, » répliqua l'autre. « Mais comme j'ai eu l'honneur de rencontrer ce gentleman à Genève, dans un hôtel où nous sommes descendus tous deux en compagnie d'une société d'élite, et comme j'ai eu l'honneur de lier connaissance avec ce gentleman dans le cours de plusieurs excursions subséquentes, je ne saurais rien entendre, même de la bouche d'une personne de votre tournure et de votre rang, monsieur, qui soit de nature à porter atteinte à la considération de ce gentleman. Je n'ai pas la moindre envie, monsieur, de porter atteinte à sa considération. En disant que votre ami s'est montré un peu vif, je n'y ai seulement pas songé. J'ai tout simplement fait cette remarque parce qu'il était clair que mon fils, auquel sa naissance et son éducation donnent droit au titre de gentleman, aurait volontiers consenti, si on lui eût exprimé ce désir d'une façon convenable, à ce que le feu demeurât également accessible à tous les membres de la société ici présente, car nous sommes tous égaux dans une occasion comme celle-ci, me semble assez raisonnable.
« Bon, répliqua l'ami, cela suffit, monsieur. Je suis le très humble serviteur de votre fils. Je prie votre fils d'agréer l'assurance de ma considération la plus profonde. Et maintenant, monsieur, je puis avouer franchement que mon ami a quelquefois l'esprit sarcastique.
Cette dame est la femme de votre ami, monsieur ?
Oui, monsieur, cette dame est la femme de mon ami.
Elle est fort jolie.
Monsieur, elle est d'une beauté sans pareille. il n'y a pas un an qu'ils sont mariés. Ce voyage est à la fois de lune de miel et un voyage artistique. Votre ami est artiste, monsieur ? L'interlocuteur répondit en baisant le bout des doigts de sa main droite et en envoyant le baiser au ciel à bras tendus, comme pour vouer son ami aux puissances célestes en sa qualité d'artiste immortel. Ce qui ne l'empêche pas d'être un homme de bonne famille, ajouta-t-il. Ses relations sont les plus distinguées. Ce n'est pas un simple artiste, c'est aussi un homme de haute lignée. Il se peut qu'il ait repoussé ses parents par orgueil, par vivacité, par esprit sarcastique, je veux bien aller jusque-là. Mais ce n'en sont pas moins ses parents. C'est ce que j'ai entrevu clairement, à la lueur de quelques étincelles qui ont jailli naturellement de notre intimité. Dans tous les cas, dit le gentleman à l'air superbe, comme pour couper court à ce sujet de conversation, j'espère que l'indisposition de cette dame ne sera rien. Monsieur, je l'espère comme vous. Un peu de fatigue, sans doute. Il y a quelque chose de plus, monsieur, car ce matin la mule de la dame, ayant fait un faux pas, elle est tombée de sa selle, tombée fort légèrement, puisqu'elle a pu se relever toute seule et nous devancer en riant. Mais plus tard, elle s'est plainte d'une douleur au côté, et elle en a parlé plus d'une fois quand nous suivions les montagnes. Le voyageur à la suite nombreuse, dont l'affabilité ne dégénérait pas en familiarité, pensa qu'il avait montré assez de condescendance comme cela. Il ne parla plus, et le silence régna dans la salle, jusqu'au moment où le souper fut servi. Avec le souper arriva un des jeunes moines, il ne paraissait pas y avoir de vieux moines dans le couvent, qui présida au repas. Le souper ressemblait à celui de la plupart des hôtels de la Suisse, et un bon vin rouge, récolté par le couvent, dans un climat moins ingrat, ne fit pas défaut. L'artiste vint tout tranquillement prendre sa place à table, au moment où les autres convives s'asseyaient, sans avoir l'air de se rappeler le moins du monde, sa récente escarmouche avec le voyageur si admirablement équipé. « Mon père, demanda-t-il à l'hôte pendant qu'on servait la soupe, votre couvent possède-t-il encore un grand nombre de ces fameux chiens ?»« Monsieur, il nous en reste trois. »« Je viens d'en voir trois dans la galerie d'en bas. Ce sont sans doute les trois dont vous parlez. » L'hôte, jeune homme élancé, aux yeux brillants et aux manières polies, vêtu d'un froc noir traversé par des bandes blanches qui avaient l'air de bretelles et qui ne ressemblait pas plus à la race des moines de convention du Grand Saint-Bernard qu'il ne ressemblait aux quadrupèdes de convention du même établissement, répondit que c'étaient en effet les trois chiens en question. « Et il me semble, continua l'artiste, qu'il y en a un que j'ai déjà vu quelque part. » C'était bien possible. C'était là un chien très connu. Monsieur avait bien pu le rencontrer dans la vallée ou dans le lac, accompagnant un des frères en tournée de quête pour le couvent. Ce qui se fait régulièrement à certaines époques de l'année, je crois. Oui, monsieur avait raison. Et jamais sans le chien ? Le chien joue là-dedans un rôle important. Monsieur a encore raison. La présence du chien importe beaucoup. On s'intéressera naturellement au chien. Mademoiselle remarquera que ce chien appartient à une race justement célèbre. Mademoiselle mit quelque temps à faire cette remarque, comme si elle n'était pas encore habituée à la langue française. Cependant, Madame Générale voulut bien le remarquer pour elle. Demandez-lui s'il a sauvé beaucoup de monde, dit en anglais le jeune homme auquel l'artiste avait fait perdre contenance. L'hôte comprit la question sans qu'il fût besoin d'interprète. Il répondit de suite en français, non, pas celui-là. Pourquoi pas ? Demanda le jeune homme. Pardon, répondit l'hôte avec sang-froid, vous n'avez qu'à lui fournir une occasion de sauver la vie à quelqu'un, et il n'y manquera pas. Je suis parfaitement convaincu, par exemple, souriant avec calme, tandis qu'il découpait le veau, avant de faire circuler le plat, que si vous, monsieur, vous étiez assez bon pour lui fournir cette occasion, il s'empresserait avec ardeur de remplir son devoir. L'artiste se mit à rire. Le touriste insinuant, qui paraissait pressé d'avoir sa bonne part du souper, essuya avec un morceau de pain quelques gouttes de vin qui brillaient sur sa moustache avant de prendre part à la conversation. Il commence à se faire un peu tard pour voyager en amateur dans cette saison. N'est-il pas vrai, mon père ? Demanda-t-il. En effet, dans 2 ou 3 semaines au plus, nous resterons seuls avec les neiges d'hiver.
Et alors, continua son interlocuteur, en avant les chiens qui grattent la neige et les enfants ensevelis, comme dans les gravures.
Pardon, dit l'hôte, qui ne comprenait pas tout à fait cette allusion. Qu'entendez-vous par « en avant les chiens qui grattent la neige et les enfants ensevelis, comme dans les gravures »
L'artiste intervint de nouveau, avant que l'autre eût eu le temps de répondre.
« Ignorez-vous donc, demanda-t-il froidement à son compagnon, assis de l'autre côté de la table, qu'il n'y a que des contrebandiers qui s'aventurent de ce côté pendant l'hiver, et qui puissent avoir affaire par ici ?»«
Je n'en savais rien, parbleu. » »«
Je me suis pourtant laissé dire qu'il n'y a rien de plus vrai. Et comme ces messieurs devinent assez bien le temps qu'il va faire, ils ne donnent pas beaucoup de peine aux chiens, dont il n'y a pas l'inconvénient par conséquent à laisser éteindre la race, bien que cet édifice hospitalier se trouve assez commodément situé pour de tels visiteurs. Et quant à leurs enfants, ils ne sont pas dans l'usage de les emmener avec eux, ils les laissent à la maison.
Mais malgré ça, c'est une grande idée, s'écria l'artiste, avec un enthousiasme inattendu.
Une idée sublime, la plus belle idée au monde, par Jupiter. Il y a de quoi faire venir les larmes aux yeux.
Et il se mit à manger son veau avec le plus grand sang-froid.
Il y avait au fond du discours assez de légèreté railleuse pour ne point flatter agréablement les oreilles de l'hôte, bien que les manières de l'orateur fussent élégantes, sa mine distinguée, et que la raillerie fût d'ailleurs trop habilement voilée pour qu'une personne qui n'aurait pas été familiarisée avec la langue anglaise pût la saisir, ou du moins s'en offenser, tant le ton de l'artiste était simple et calme. Après avoir fini de manger son veau en silence, il adressa de nouveau la parole à son ami.
« Regardez-moi, dit-il avec la même intonation qu'auparavant, notre digne hôte, qui n'a pas encore atteint la maturité de son âge et qui préside à ce repas d'une façon si gracieuse, avec une urbanité si distinguée et une modestie exemplaire. Une tenue qui ferait honneur à un roi. Vous n'avez qu'à aller dîner chez le Lord Maire de Londres, si vous pouvez vous y faire inviter, et vous verrez quel contraste !»
Ce cher père, avec la tête la mieux sculptée que j'ai jamais vue, des traits d'un dessin irréprochable, plante là dans cette saison quelque occupation laborieuse dans la vallée et monte à je ne sais combien de pieds au-dessus du niveau de la mer, sans autre but, si ce n'est, comme je l'espère, celui de vivoter à l'aise dans un excellent réfectoire, que de tenir un hôtel pour de pauvres diables oisifs comme vous et moi, et de laisser à notre conscience le soin de faire elle-même l'addition. Eh bien, n'est-ce pas un admirable sacrifice? Et que faut-il de plus pour attendrir tous les cœurs?
Parce que, pendant 8 ou 9 mois de l'année, on n'y rencontre pas une foule de malheureux d'un aspect intéressant, accrochés au col des chiens les plus sagaces du monde, avec des bouteilles de bois suspendues à leur collier. Est-ce une raison pour discréditer la localité? Non, certainement. Dieu bénisse la localité, c'est une grande et glorieuse localité.
La poitrine du gentleman à cheveux gris, le chef de la grande tribu, s'était gonflée comme pour protester contre l'idée d'être compté parmi les pauvres diables dont l'artiste venait de parler.
Celui-ci eut à peine terminé son discours que le vieillard prit la parole d'un air de dignité extrême. On eût dit qu'il se croyait tenu de prendre partout le haut du pavé et qu'il se reprochait d'avoir négligé son devoir depuis le commencement du repas. Il témoigna à leur hôte, en phrases plates et lourdes, la crainte que la vie qu'il menait au sommet de la montagne ne fût assez triste en hiver. L'hôte concéda à monsieur que son existence était en effet un peu monotone durant cette époque. L'air du dehors était difficile à respirer longtemps de suite. Le froid devenait intense. Il fallait être jeune et vigoureux pour y résister. Mais avec de la jeunesse, de la vigueur, et la bénédiction du ciel ?
Oui, oui, très bien, mais ce long emprisonnement, interrompit le gentleman aux cheveux gris.
Il y a bien des jours, même durant la plus mauvaise saison, où l'on peut se promener au dehors. Nous avons l'habitude de tracer un petit sentier où nous prenons de l'exercice.
Mais l'espace, objecta le gentleman aux cheveux gris.
L'espace est si étroit, si limité.
Monsieur voudra bien se rappeler qu'il y a les refuges à visiter et qu'il faut aussi tracer des sentiers jusque-là.
Monsieur objecta encore, d'un autre côté, que l'espace était si... si extrêmement restreint. Et puis, c'était toujours la même chose. Toujours la même chose. L'hôte, avec un sourire qui semblait réclamer l'indulgence de son interlocuteur, leva et baissa doucement les épaules. « Ce que dit monsieur est très vrai, remarqua-t-il, mais tout dépend du point de vue où l'on se met pour envisager les choses. Monsieur et moi, nous ne pouvons envisager cette existence du même point de vue. Monsieur n'est pas habitué à la réclusion. Oui, c'est très juste, répondit le gentleman aux cheveux gris, qui parut frappé de ce dernier argument. Monsieur, en sa qualité de touriste anglais, possédant les moyens de voyager agréablement, ayant sans doute une grande fortune, des voitures, des domestiques. Certainement, certainement, sans doute, répliqua le gentleman. Monsieur aurait de la peine à se mettre à la place d'une personne qui n'a pas le droit de dire « Demain j'irai à tel endroit, après-demain à tel autre. Je franchirai telle barrière, je reculerai telle limite. » Monsieur ne peut guère se figurer que l'esprit se résigne à pareil esclavage sous la dure loi de la nécessité. « Vous avez raison, dit monsieur. Nous laisserons là ce sujet de conversation. Ce que vous venez de dire est parfaitement exact. Me voilà convaincu, n'en parlons plus. » Le souper était terminé. Il repoussa sa chaise et reprit sa place auprès du feu. Comme il faisait très froid à une certaine distance de la cheminée, les autres convives ne tardèrent pas à se rapprocher de l'âtre dans l'intention de se rôtir un peu avant d'aller se coucher. L'hôte, lorsqu'ils se levèrent de table, leur adressa un salut général, leur souhaita le bonsoir et se retira. Mais le touriste insinuant lui avait déjà demandé si on ne pouvait pas leur servir du vin chaud. Et comme l'hôte, après lui avoir répondu que cela se pouvait, leur avait fait apporter ce rafraîchissement, le touriste satisfait, assis au centre du groupe de façon à profiter de toute la chaleur du feu, fut bientôt occupé à remplir les verres et à les passer à ses compagnons. À ce moment, la plus jeune des deux demoiselles, qui, de son coin obscur, la flamme du foyer formait le principal éclairage de la sombre salle, car la lampe fumeuse ne jetait pas un grand éclat, avait écouté en silence ce qu'on avait dit de la dame absente, sortie sans bruit du réfectoire. Lorsqu'elle eut refermé la porte tout doucement, elle ne sut de quel côté diriger ses pas, mais après avoir erré un moment à travers les nombreuses sonores galeries, elle arriva à une salle en coin de la galerie principale où les domestiques étaient en train de souper. Elle se fit donner une lampe et indiquer la chambre de la dame. Cette chambre se trouvant un étage plus haut, il fallut monter le grand escalier. Ça et là, les murs nus et blancs étaient percés d'une grille, et tout en montant, elle pensait que le couvent avait presque l'air d'une prison. La porte en ogive de la cellule était entrebâillée. Après y avoir frappé deux ou trois fois sans recevoir de réponse, la jeune fille la poussa doucement et jeta un coup d'œil dans la chambre. La dame reposait sur le lit, les yeux fermés et tout habillée, protégée contre le froid par les couvertures et les châles qu'on avait jetés sur elle lorsqu'elle était revenue de son évanouissement. Une veilleuse placée dans la profonde embrasure de la croisée éclairait à peine cette salle voûtée. La visiteuse s'approcha timidement du lit et demanda tout bas « Allez-vous un peu mieux ?» La dame sommeillait et la douce voix qui lui adressait cette question ne suffit pas pour la réveiller. La visiteuse se tint immobile à son chevet, la regardant avec attention. « Elle est très jolie, se dit-elle. Je n'ai jamais vu un plus charmant visage. Ah, ce n'est pas comme moi. » C'était une réflexion assez étrange, mais il fallait qu'elle eût quelque sens caché, car les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. « Je sais que je ne me trompe pas. Je sais que c'est d'elle qu'il m'a parlé le soir où, sans le vouloir, il m'a fait tant de mal. Je pourrais très facilement me méprendre sur tout autre sujet, mais pas sur celui-ci. Oh non, pas sur celui-ci. » D'une main tranquille et tendre, elle écarta du front de la dormeuse une boucle de cheveux égarés, puis elle toucha la main étendue en dehors des couvertures. « J'aime à la regarder, » se dit-elle encore tout bas. « J'aime à voir ce qui a ému mon pauvre ami. » Elle n'avait pas retiré sa main lorsque la dormeuse ouvrit les yeux et tressaillit. « N'ayez pas peur, madame, je ne suis qu'une des voyageuses d'en bas. J'étais venue vous demander si vous alliez mieux et si je puis faire quelque chose pour vous. Je crois que vous avez déjà eu la bonté d'envoyer vos domestiques à mon secours. Ce n'est pas moi, c'est ma sœur. Allez-vous mieux ? Beaucoup mieux. Cette contusion est fort peu de chose. On m'a bien soignée et je n'en souffre presque plus. Elle m'a donné seulement un étourdissement qui m'a fait perdre connaissance subitement. Elle m'avait bien causé déjà quelques douleurs, mais cette fois-là, elle m'a accablé d'un coup. Voulez-vous que je reste ici jusqu'à ce qu'il vienne quelqu'un ? Vous me ferez grand plaisir, car c'est bien isolé ici, mais je crains que vous ne souffriez trop du froid. Le froid ne m'a jamais effrayée. Je suis plus forte que je ne le parais. » Elle se dépêcha d'approcher du lit l'une des deux chaises grossières qui meublaient la cellule et s'assit. L'autre, de son côté, s'empressa de tirer à elle la moitié d'un manteau de voyage et d'en couvrir sa compagne, de façon que son bras, en le retenant autour d'elle, reposait sur l'épaule de la visiteuse. « Vous avez tellement l'air d'une bonne petite garde malade, » dit la dame en souriant à la jeune fille, « qu'il me semble qu'on vous a envoyé chez moi pour me soigner. » « J'en suis bien aise. » « C'est moi, plutôt. J'étais justement en train d'en rêver avant de me réveiller tout à l'heure. » « Je veux parler du « chez moi » de mon enfance, de ma jeunesse, avant que je fusse marié. » « Et avant que vous l'eussiez laissé si loin derrière vous. » « Je m'en étais déjà éloigné une fois, bien plus que je ne le suis aujourd'hui. » Mais alors j'emportais avec moi ce qu'il y avait de meilleur au logis, et je ne m'apercevais pas qu'il me manquât quelque chose. Mais tout à l'heure, avant de m'endormir, je me suis senti un peu abandonné. J'ai regretté ce que j'ai laissé dans la maison paternelle, et j'en ai rêvé. » Elle prononça ces paroles avec une intonation tristement affectueuse, pleine de regrets, qui empêcha la visiteuse de la regarder pour le moment. « C'est un étrange hasard qui nous rassemble enfin, toutes les deux, sous ce manteau dont vous m'avez enveloppé, » dit-elle après un moment de silence. « Car, savez-vous, je crois qu'il y a déjà quelque temps que je vous cherche. »« Que vous me cherchez, moi ? » ?»« J'ai idée que j'ai là un petit billet que je devais vous remettre dès que je vous rencontrerai. Le voici. À moins que je ne me trompe beaucoup, il vous est adressé, n'est-ce pas ?» La dame prit le billet, répondit oui, et le lut. La visiteuse fixa les yeux sur elle, tandis qu'elle le lisait. La lettre était très courte. La malade rougit un peu, approcha ses lèvres de la joue de la jeune fille, et lui serra la main. « Il me dit que la chère petite amie à laquelle il me présente sera une consolation pour moi un jour ou l'autre. Et il a bien raison, car vous me consolez dès notre première rencontre. » « Peut-être, dit la visiteuse avec un peu d'hésitation, peut-être ignorez-vous mon histoire. Peut-être ne vous l'a-t-il jamais racontée. » « Non. » « C'est juste. Pourquoi donc vous l'aurait-il racontée ? » « Aujourd'hui, je n'ai guère le droit de la raconter moi-même, car on m'a prié de la taire. Elle n'a d'ailleurs rien de bien intéressant, mais elle vous expliquerait pourquoi je vous prie de ne pas parler ici de cette lettre. Vous avez vu ma famille, je crois. » Quelques-uns d'entre eux, je ne dirai pas cela à tout le monde, sont un peu fiers et ont quelques préjugés. « Je vais vous rendre la lettre, » répondit l'autre, « comme cela mon mari ne la verra pas. Autrement, il pourrait la trouver par hasard et en parler. Voulez-vous la remettre dans votre corsage, afin d'être bien sûr qu'elle ne s'égare pas ?» La visiteuse la serra avec beaucoup de soin. Sa main mignonne tenait encore la lettre, lorsqu'elles entendirent quelqu'un marcher dans la galerie. « Je lui ai promis, » dit la visiteuse en se levant, « de lui écrire dès que je vous aurai vu. Je ne pouvais manquer de vous rencontrer tôt ou tard et de lui dire si vous étiez heureuse et bien portante. Ne faut-il pas que je lui dise qu'en effet, vous êtes heureuse et bien portante ? Oui, 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 oui. Dites que vous m'avez trouvée très heureuse et bien portante. Dites aussi que je le remercie bien affectueusement et que je ne l'oublierai jamais. Je vous verrai demain matin et plus tard, car nous ne saurions manquer de nous rencontrer encore. Bonsoir. » Bonsoir. Merci, merci. Bonsoir, ma chère. » Toutes deux étaient pressées et un peu agitées, tandis qu'elles échangeaient ces adieux
et que la visiteuse quittait la cellule. Elle s'attendait à voir approcher le mari de la malade, mais ce n'était pas lui qui traversait en ce moment la galerie. C'était le touriste qui avait essuyé ses moustaches avec un morceau de pain. Lorsqu'il entendit marcher derrière lui, il se retourna, car il s'éloignait dans l'obscurité. Sa politesse, qui était extrême, ne lui permit pas de souffrir que la jeune demoiselle fut obligée de s'éclairer elle-même ou de descendre seule. Il lui prit la lampe des mains, la tint de façon à jeter le plus de clarté possible sur les marches de pierre, et l'accompagna jusqu'au réfectoire. Elle descendit, dissimulant avec beaucoup de peine le sentiment de crainte qui lui donnait envie de reculer et de trembler devant son compagnon, car ce voyageur produisait sur elle une impression singulièrement désagréable. Avant le souper, tandis qu'elle se tenait dans son coin obscur, elle s'était si souvent demandé si cet homme ne s'était pas rencontré déjà dans certaines scènes et dans certains endroits qu'elle connaissait, qu'il avait presque fini par lui inspirer de l'aversion, ou plutôt une véritable terreur. Il la suivit avec sa politesse souriante, entra avec elle et reprit la meilleure place au coin de la cheminée. Là, aux clartés vacillantes du feu qui commençait à baisser, il allongeait les jambes afin de les mieux chauffer, buvant le reste du vin chaud jusqu'à la lie, tandis qu'une ombre monstrueuse imitait ses mouvements sur le mur et le plafond. Les voyageurs fatigués s'étaient dispersés et retirés dans leur chambre, à l'exception du père de la jeune fille qui sommeillait dans sa chaise auprès du feu. Le touriste insinuant avait pris la peine de monter assez haut pour chercher sa gourde d'eau-de-vie dans sa chambre à coucher. Du moins, il leur fit cette confidence tout en versant le contenu dans le peu de vin qui restait et en buvant ce mélange avec un nouveau plaisir. « Oserais-je vous demander, monsieur, si vous vous rendez en Italie ?» Le gentleman aux cheveux gris s'était réveillé et se disposait à se retirer. Il répondit affirmativement. « Moi aussi, répondit le buveur. J'espère donc que j'aurai l'honneur de vous présenter mes respects devant un plus beau paysage et sous un climat plus propice que celui de ces sombres montagnes. » Le gentleman salua avec assez de roideur et répondit qu'il lui était bien obligé. « Nous autres, gentilshommes pauvres, monsieur, continua ce dernier en essuyant sa moustache avec ses doigts, car il l'avait trempée dans un mélange de vin et d'eau-de-vie, nous autres, gentilshommes pauvres, nous ne pouvons pas voyager en prince. Mais les courtoisies et les politesses sociales ne nous en sont pas moins chères pour cela. À votre santé, monsieur. Monsieur, je vous remercie. À la santé de votre aimable famille, des charmantes demoiselles, vos filles. Monsieur, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite le bonsoir. Ma chère, nos gens sont-ils là? Ils sont à deux pas, père. Permettez-moi, s'écria le touriste poli, se levant et ouvrant la porte, tandis que le gentleman aux cheveux gris s'en approchait, donnant le bras à sa fille. Bonne nuit. Au plaisir de vous revoir. À demain. Comme il leur envoyait du bout des doigts un baiser des plus gracieux et leur adressait son sourire le plus charmant, la jeune fille se rapprocha un peu de son père pour passer auprès de l'étranger, comme si elle eût eu peur de le toucher. « Allons, » dit le touriste insinuant, dont l'allure devint moins dégagée et qui baissa la voix dès qu'il se trouva seul. « Puisque tout le monde va se coucher, il faut que j'en fasse autant. Ils sont diablement pressés. Il me semble que la nuit serait bien assez longue déjà, au milieu de ce silence glacé et de cette solitude, si on n'allait se coucher que dans 2 heures d'ici. » Rejetant la tête en arrière afin de vider son verre, il aperçut le livre des voyageurs restait tout ouvert sur le piano, avec des plumes et un encrier à côté, comme si les touristes s'y fussent inscrits déjà pendant son absence. S'approchant du registre, il élut ses noms. William Dorrit Esquire, Frédéric Dorrit Esquire, Edward Dorrit Esquire, Miss Dorrit, Miss Amy Dorrit, Madame Générale, et leur suite, se rendant de France en Italie. Monsieur et Madame Henry Gowan se rendant de France en Italie. Il ajouta à ces noms, en une petite écriture compliquée, qui se terminait par un long et maigre paraphe, assez semblable à un lasso jeté autour des autres noms, Blandois de Paris se rendant de France en Italie.
puis, avec son nez qui s'abaissait sur sa moustache et sa moustache qui se relevait sous son nez, il gagna la cellule qui lui était destinée.